nous sommes sur la radio de Bac FM. Nous sommes deux chroniqueuses, Soraya et
Juliette.
Nous accueillons aujourd'hui Henri Brock, physicien français et professeur à l'Université de Côte d'Azur. Cependant, nous abordons aujourd'hui davantage les lois physiques, la philosophie, la zététique. Bonjour Monsieur Brock.
Bonjour.
On va commencer par une question qui n'est pas des moindres, hein, puisqu'on va vous demander de définir la zététique.
Oui, alors la zététique, bon, c'est un mot ancien, hein, c'est pas moi qui ai inventé le terme, hein. Donc ça date du 4e siècle avant notre ère, c'est le grec Pyrrhon qui a enseigné ça. Le mot zététique, il vient du grec zétein, qui veut dire chercher. Donc grosso modo, ça représente, disons, la méthode scientifique. C'est le littré, le dictionnaire littré, donc au 19e siècle, qui définissait ça comme la méthode dont on se sert pour pénétrer la raison et la nature des choses. Donc c'est clairement la méthode scientifique que l'on utilise, mais c'est un terme qui était, disons, le terme qui était utilisé dans l'Antiquité, quoi. Et Kant, le philosophe, lui, le définissait même comme la méthode propre de l'enseignement philosophique. Il disait « c'est la zététique, la méthode propre de l'enseignement philosophique ». Philosophique, il faut dire aussi que le sens ancien philosophique, c'est un peu… Les philosophes de l'Antiquité, ce sont les physiciens. Hein. La philosophie naturelle, comme l'appelait Newton, c'est finalement la physique. Donc le terme, il a pris un sens un peu différent. C'est deux domaines, deux spécialités, si on peut dire… presque malheureusement séparés à l'heure actuelle, mais en fait, il y a un siècle ou deux, pas plus, et avant, c'était le même domaine, quoi.
D'accord, très bien. Mais merci déjà pour le petit cours d'étymologie, parce que c'est vrai qu'il faut quand même revenir un petit peu aux racines pour pouvoir comprendre. Et on aimerait bien savoir comment on peut l'articuler aujourd'hui.
Pouvez-vous nous détailler les étapes méthodologiques établies par la zététique pour la recherche de la vérité?
Oui, alors bon, là, ça serait vraiment long, parce qu'il y en a beaucoup, hein, puisque finalement, je vous dis, c'est grosso modo, c'est la méthode qu'on utilise en science dans tout autre domaine, quand on veut essayer de trouver un petit peu la vérité. Bon, j'aime pas trop le terme vérité, hein, parce que vérité, il y a vraiment une espèce de connotation un peu métaphysique derrière. Mais bon, on va utiliser ce terme-là, hein, si vous voulez. Plutôt que réalité ou un terme comme ça, mais disons la vérité. L'art du doute, moi, la zététique, je résume ça en disant c'est l'art du doute. C'est-à-dire quelles sont les facettes et les effets qu'il faut qu'on ait à l'esprit et qu'il faut qu'on utilise quand on est face à une information pour essayer de vérifier cette information et pour essayer après de prolonger cette information quand on a pu vérifier qu'elle était correcte, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut avoir comme implication, comme conséquence, est-ce que c'est une loi qu'on peut utiliser, est-ce que c'est, etc., de voir un petit peu les conséquences. C'est un petit peu, je crois que c'est Larousse qui disait ça, qui parlait aussi de zététique, donc Pierre Larousse, hein, celui qui avait fait le dictionnaire au 19e siècle, le dictionnaire actuel Larousse, quelquefois il s'est un peu perdu, et quelquefois, maintenant ils l'ont remis je crois, mais il y a eu un moment où le mot zététique on ne le retrouvait même plus, alors que dans le dictionnaire du fondateur, Pierre Larousse, au 19e, il était bien, bien explicité et détaillé. Et Larousse expliquait justement que c'était une nuance originale du scepticisme. C'est-à-dire que c'est pas le scepticisme un peu comme on l'imagine, pur et dur, finalement, un scepticisme total. Ce qui veut dire finalement, c'est quasiment un nihilisme, ben, ça conduit à pas grand-chose. En fait, c'est l'idée qui considère le doute comme un moyen et non comme une fin. Donc c'est quelque chose de préliminaire, c'est pas quelque chose de définitif. C'est-à-dire on suspend son jugement jusqu'à plus ample information. Donc c'est être sceptique dans ce sens-là, quoi.
Et du coup, cet art du doute, cette forme du doute, est-ce qu'il y a certains scientifiques qui l'ont repris à leur compte et qui se sont vraiment impliqués dans le mouvement de la zététique?
Oui, il y a eu... Donc moi j'ai créé un enseignement... Donc c'était au début des années 80, j'ai créé un enseignement à l'université qui s'appelait Université de Nice Sophia Antipolis à l'époque, c'est ce qu'on appelle l'Université Côte d'Azur maintenant. Donc j'ai créé un enseignement, l'enseignement a eu pas mal de succès, et suite à ce, disons, au succès de l'enseignement, j'ai pu créer un laboratoire, donc un laboratoire officiel à l'Université de Nice, laboratoire de zététique, qui permettait donc de développer un petit peu les facettes et les effets de la zététique, de développer les cours et de faire également de la recherche et des tests. Alors ça, c'est un point un peu particulier. En 86-87, j'ai lancé un défi aux médiums, à ceux qui prétendent avoir des pouvoirs qui sortent, disons, des lois habituelles, des lois physiques, hein. Je leur dis, vous prétendez avoir des pouvoirs, ok, ben, prouvez-le, nous, au laboratoire, on est prêt à faire des tests avec vous, selon ce que vous revendiquez. Et ensuite, donc ça, c'était fin 86 et tout début 87, un collègue belge, un immunologiste, Jacques Théodore, qui avait de l'argent personnellement, il a mis un gros chèque sur l'appel à preuve, et donc c'est devenu le prix défi esthétique international, qui, in fine, promettait donner 200 000 euros à toute personne qui pourrait faire un phénomène paranormal que l'on n'arriverait pas à expliquer, quoi. Donc c'est ça qui a fait connaître un petit peu la zététique, hein, vraiment de manière générale. Plus que l'enseignement, c'est le côté du prix défi qu'on a lancé aux médiums et autres gourous, quoi.
Oui, c'est le côté de la médiatisation aussi de la zététique.
Voilà, exactement.
D'accord. Mais pour vous, c'est important de l'enseigner. Qu'est-ce que ça peut nous apporter de l'enseigner?
Ben, le fait de l'enseigner, ça permet de développer un petit peu justement cet art du doute au niveau de l'ensemble des jeunes, des étudiants comme vous qui êtes en formation maintenant, et le fait que ça s'adresse à tout le monde. Au début, moi, le cours, je l'ai lancé évidemment donc en sciences. Je suis physicien, donc c'était avec mes étudiants de physique, donc de la faculté des sciences. Et ensuite, devant le succès, on a étendu et ils ont permis à l'ensemble des étudiants de l'université, donc ceux qui étaient en psycho, en philo, quelle que soit la dominante dans laquelle ils étaient, ils pouvaient venir assister au cours. Au début, c'était juste un auditeur libre, et puis après, ça a été mis carrément officiellement avec l'examen à passer en fin d'année. Et après, malheureusement, comme il y a eu trop d'étudiants, c'est un peu le comble, mais il a fallu qu'on réduise, c'est-à-dire qu'il était impossible de pouvoir enseigner à un tel nombre d'étudiants, et donc on s'est restreint uniquement aux étudiants de la faculté des sciences.
Vous parlez de toutes ces études, dans quelle mesure la zététique peut-elle analyser les effets socio-culturels, soit le champ des sciences humaines et sociales?
Ben, c'est par la méthode qu'on utilise. Le simple fait de dire sciences humaines et sociales, vous voyez bien qu'il y a le vocabulaire sans science, hein, qui a été mis. Alors après, on pourrait discuter, hein, sur la définition vraiment de science, est-ce que ça colle vraiment. Mais la méthode qui est appliquée, en tout cas, c'est une méthode scientifique. Le sujet n'est pas scientifique, si on peut dire. Quand on va parler d'un individu, c'est des paramètres un peu compliqués, hein. C'est pas comme un atome. Mais tout dépend de la méthode qu'on va appliquer pour faire cette étude. Donc toutes les études qui se font dans le domaine, disons, des sciences sociales, le principe de base, c'est que la méthode qui a été appliquée soit une méthode scientifique. Pour faire un sondage, par exemple, il y a différentes manières de travailler et des manières qui sont un peu plus sérieuses, entre guillemets, que d'autres. Et celles-là, ben, elles sont appuyées, assises, disons, confortées par une démarche zététique, par une démarche scientifique.
Par exemple, dans quelle mesure la méthode des quotas, donc celui où on fait des statistiques sur la société et on les applique dans un sondage, comment concrètement en fait la zététique elle peut rentrer dans cette méthode-là?
La zététique, c'est de regarder un petit peu, de faire ça scientifiquement, de voir si les quotas ont été bien définis, de voir si le tirage il a été vraiment aléatoire, de voir s'il y a une ou deux personnes, par exemple, qui sortent du lot, etc. C'est de regarder un petit peu les données. C'est pareil pour toute étude, que ce soit une étude médicale. Dans les études médicales, par exemple, c'est pareil, hein. Ils font des tests pour voir les médicaments ou pour voir un nouveau produit. Ils font le quota, disons, sur une partie de la population française. Il faut voir si, ben, effectivement, les tirages ont été faits correctement, de manière vraiment aléatoire. Je vous prends un exemple, la fameuse mémoire de l'eau, je sais pas si ça vous dit quelque chose, hein. Ça a eu un succès à un moment incroyable. C'était soi-disant des scientifiques donc qui avaient démontré que l'eau pouvait garder la mémoire d'un produit avec lequel elle avait été en contact, même si on diluait. C'est-à-dire, vous prenez de l'eau, vous mettez un produit dedans, puis vous diluez une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, 10 millions de fois, 1 milliard de fois, etc. Il ne vous reste plus que de l'eau, et la revendication, soi-disant scientifique, c'était que l'eau conserve la mémoire du produit avec lequel elle avait été en contact à l'origine. Bon, ben, il y a eu des publications scientifiques qui ont été faites là-dessus, et la zététique, si on regarde un petit peu, elle a permis de montrer que justement, c'était pas fait de manière sérieusement au point de vue statistique. Après, c'était même pire que ça, les données ont été trafiquées, c'est-à-dire que la publication était une publication frauduleuse. Hein. Mais déjà, d'entrée, on pouvait essayer de vérifier est-ce que la manière de tester a été faite correctement. C'est pareil dans les études, c'est pas forcément que pour les études scientifiques, c'est pareil dans le domaine des sciences sociales, des sciences humaines. Il faut voir si les sondages sont bien faits, si les questions sont posées correctement, s'il n'y a pas des échappatoires, s'il n'y a pas des... Est-ce que, par exemple, la question... Si on va poser la question à des gens, on va leur demander « Pensez-vous, par exemple, que les extraterrestres viennent de Mars ?» Et puis à d'autres personnes, on va demander « Pensez-vous que les extraterrestres viennent de Vénus ?» On fait des sondages, etc. Et puis on va se rendre compte que 80% de la population a dit que les extraterrestres venaient de Vénus. Ok, donc ceux qui disent qu'elles viennent de Mars, c'est faux. Ben, ça, manifestement, il y a un problème, quoi. Il y a un problème méthodologique, parce que c'est deux hypothèses, disons, qui sont compétitives, mais qui sont pas contradictoires. Ce qui veut dire que si vous démontrez que l'un des deux a tort, ça ne prouve pas du tout que le deuxième a raison. Le seul cas d'un débat, ça on le voit beaucoup en politique, hein, c'est assez ahurissant de voir un petit peu, vous avez deux personnes qui débattent, la plupart du temps, malheureusement, il y a un des deux débatteurs, peu importe lequel, parce que c'est réciproque, hein, un des deux débatteurs, il va pas chercher à montrer qu'il a raison, il va chercher à montrer que l'opposant, que celui qu'il a en face, a tort. Et s'il arrive à faire ça, il lève les bras et dit « Bravo, j'ai gagné, vous avez vu, c'est moi qui ai raison ». Ben non, il a pas raison, ils peuvent avoir tort tous les deux, quoi. C'est que dans le cas où vous avez deux hypothèses qui sont vraiment contradictoires, c'est-à-dire, par exemple, moi je dis les extraterrestres viennent de Mars, et vous soutenez les extraterrestres ne viennent pas de Mars. Donc là, on est dans un cas où on a vraiment deux hypothèses contradictoires. Donc, si l'un de nous deux prouve que l'autre a tort, alors celui-là a effectivement raison. Mais si vous soutenez les extraterrestres viennent de Vénus et moi, les extraterrestres viennent de Mars, ça sert strictement à rien que je montre que vous vous trompez, parce que ça montrera jamais que moi j'ai raison, quoi. Et ça, c'est des erreurs assez classiques qu'on observe dans des sondages, quoi. Et en politique, alors, bon, n'en parlons pas, c'est vraiment le béaba, quoi.
Vous nous parlez, du coup, des fois, des sondages qui sont mal faits ou on pourrait avoir des erreurs d'études. Quels sont les risques liés à la désinformation aujourd'hui?
Les risques liés à la désinformation, c'est énorme. C'est-à-dire les conséquences que ça peut avoir. Ça peut faire des mouvements d'opinion qui vont faire que des personnes vont croire que certaines choses sont... par exemple, bon, tout ce qu'on voit sur le dénialisme climatique, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'il n'y a pas de modification du climat et de variation de la température à l'heure actuelle, et ça, malheureusement, c'est dû à des articles ou des pseudo-articles qui se baladent sur le réseau, des conférenciers qui racontent un peu n'importe quoi. Et donc ça, c'est un problème justement d'information. Et c'est là que la zététique peut avoir son intérêt, c'est-à-dire d'essayer de montrer face à un discours, est-ce que le discours il est correct, est-ce qu'il est bien construit, est-ce que tous les aspects sont donnés, tous les aspects sont explicités. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Pourquoi déjà, la plupart du temps, ça commence un petit peu à changer. Maintenant, on parle de réchauffement climatique. Mais il y a encore juste quelques petites années, courtes années, on disait à la télé, dans les journaux, tout ça, on nous parlait de changement climatique. Changement climatique. C'est-à-dire, c'est quasiment neutre. Alors que depuis plusieurs décennies, on sait que c'est pas juste un changement climatique, mais c'est ce que moi j'appelle un rap. C'est un réchauffement anthropique planétaire. Ça veut dire qu'on sait que ça se réchauffe, donc c'est pas juste que ça change. Parce que changer, ça peut être en positif ou en négatif. Hein. Les températures, elles peuvent monter ou descendre. Donc déjà, c'est un réchauffement. Ensuite, il est anthropique, à savoir qu'il a une source, une cause. C'est l'homme. Alors que changement climatique, on peut supposer que c'est la nature, entre guillemets, la nature qui change. Non, non, pas du tout. L'origine, c'est l'homme. Et ensuite, il y a une localisation, c'est planétaire. C'est-à-dire, c'est pas juste dans un petit coin de la Brousse ou un petit coin du sud de la France que ça se passe. Il se trouve que c'est la planète entière. Donc, quand on utilise le terme changement climatique, ça induit déjà des champs beaucoup plus larges que quand on dit réchauffement anthropique planétaire. Donc ça, c'est pour vous montrer que dans des sondages, la manière de poser la question, ça a vraiment une importance parce que ça peut carrément modifier les réponses. Alors, quelquefois, c'est parce que les questions sont mal posées, et quelquefois, c'est parce que les questions sont insidieusement posées, exprès, de manière tendancieuse, disons.
Bah, on se rend compte que laisser une place au doute, ça peut vraiment avoir un impact sur la société, donc un impact politique que vous avez cité, l'impact sur le climat qui est un enjeu aujourd'hui. Et nous, c'est vrai qu'en philosophie, on étudie beaucoup la religion, la recherche de la vérité. Et on voulait savoir s'il y avait certaines de vos enquêtes zététiques qui portaient sur le religieux.
Oui. Je vais pas dire c'est même... un point principal, mais c'est vrai que tout ce qui est miraculeux, justement, ben, les enquêtes là-dessus relèvent du domaine de la zététique, finalement. Moi, quand j'ai lancé l'enseignement de zététique à l'Université de Nice, tous mes exemples étaient tirés de ce que j'appelle les phénomènes paranormaux. Alors, phénomènes paranormaux, entre guillemets, hein, tout ce qui est soi-disant sort de l'ordinaire. Donc, les miracles sont inclus là-dedans. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé depuis que je suis tout gosse, et puis que je me suis bien rendu compte que c'est un sujet qui attire les gens. En tout cas, les étudiants, c'était clair, étaient vraiment motivés par ça. Et donc, dans l'enseignement de zététique, qui se passait sur une année, ils avaient un travail à faire, un rapport à rendre en fin d'année, sur lequel ils allaient travailler toute l'année. C'est eux qui choisissaient le sujet. Et donc, très, très, très souvent, les étudiants choisissaient des sujets, disons, liés à des phénomènes paranormaux ou à ce qu'on appelle des miracles dans le domaine religieux. Donc, du coup, ben, on a creusé ces sujets-là, on a regardé le miracle, la liquéfaction du sang de Saint-Janvier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à Naples. Il y a soi-disant du sang dans une ampoule. Du soi-disant sang dans une ampoule, pas il y a soi-disant, hein, l'endroit où on place soi-disant, vous voyez l'important, hein, c'est effectivement il y a une ampoule, effectivement il y a un liquide rouge dedans, et la revendication c'est que c'est du sang de Saint-Janvier, donc qui a été décapité 3e, 4e siècle de notre ère, et dont le sang aurait été conservé et aurait une particularité, c'est-à-dire que ce sang ancien figé se liquéfie 3 fois par an, à des dates précises qui correspondent à des événements qui ont eu lieu pendant la vie du saint, et donc en particulier à l'automne ça se liquéfie dans la cathédrale à Naples. Ce sang qui est contenu dans une ampoule et donc qui est rigide se liquéfie. Les gens viennent et prient. Si ça se liquéfie, c'est de bons présages pour la ville de Naples. Si ça se liquéfie pas, ça veut dire qu'il y a un malheur qui va se produire. Donc voilà, c'est un événement qui se passe effectivement, qui est contrôlé et contrôlable, et donc on s'y est intéressé, et il se trouve qu'on peut reconstituer ce miracle tout à fait naturellement, avec des produits très très simples. Hein. Donc on peut refaire ça, à l'université on a refait on a refait des ampoules, parce qu'on en a pas mal, des ampoules miraculeuses, c'est-à-dire il suffit simplement qu'il y ait une variation de température qui est due à quoi ? Qui est au fait qu'il va y avoir... 500, 600, 1000 fidèles qui vont venir prier, et c'est sûr que ça va réchauffer l'atmosphère, et une variation de température, disons, de 11, 12, 13 degrés jusqu'à 17, 18 ou 20 degrés, eh bien, ça va faire couler le produit, ça va le faire fondre. Donc, hors canette plus spermacétie, ça suffit pour faire le miracle, et ça marche très bien, exactement dans les mêmes conditions, avec les mêmes paramètres, etc. Donc, ça permet... Ça ne veut pas dire que le miracle n'existe pas. Ça veut dire que la solution qui serait de faire appel au miracle, elle est inutile, elle est superflue, puisque l'on peut, par une hypothèse tout à fait simple, naturelle, d'accord, rendre compte du phénomène. Hein. Ça ne veut pas dire que le phénomène n'existe pas. Ça veut dire, jusqu'à plus ample informé, on choisit l'hypothèse la plus simple. D'accord. Et l'hypothèse la plus simple, c'est que dans cette ampoule, il y a tout simplement un mélange chimique qui permet de faire une transition entre le produit solide et le produit liquide. Donc à ce moment-là, la charge de la preuve, en quelque sorte, est renversée. C'est à l'évêque de Naples de nous passer l'ampoule, on la met au spectro et on regarde tout de suite si c'est du sang ou pas du sang, et si c'est miraculeux ou pas miraculeux. Bon, ben voilà, nous on ne nous a pas passé l'ampoule, malheureusement, mais cela dit... À partir du moment où on peut reproduire d'une manière naturelle un phénomène présenté comme surnaturel, on doit, c'est pas on peut, hein, c'est on doit préférer nécessairement l'hypothèse la plus simple, à savoir l'hypothèse naturelle. Et donc l'hypothèse surnaturelle, elle devient superflue. Voilà, c'est ça que permet la méthode zététique, justement. C'est quand on est confronté à un phénomène, on l'examine, on fait des analyses et tout, puis après on voit quelles sont les différentes hypothèses et lesquelles il faut nécessairement préférer.
Merci beaucoup pour tous ces détails et ces recherches religieuses que vous avez menées. Mais aussi, en tant qu'humain, quelque chose à retirer du sacré.
On peut retirer quelque chose du sacré en tant qu'humain, non ? Quand vous avez dit que l'aspect surnaturel, il était superflu une fois qu'on avait déterminé l'aspect scientifique du phénomène. Mais spirituellement, en tant qu'humain, on n'a pas quelque chose à rechercher ?
Quand on dit quelque chose à rechercher, oui, tout à fait. Quand on a quelque chose à trouver, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que ça voudrait dire qu'il y a effectivement quelque chose qui serait au-delà de l'humain et qui permettrait peut-être d'expliquer d'une autre manière ça. Et ça, c'est pas sûr, on n'en sait rien. En tout cas, ça veut dire il faut s'y intéresser, quoi. Que ça puisse apporter un support psychologique à des individus, c'est une évidence. Et tant mieux. Je veux dire, il y a beaucoup plus de coûts psychologiques, disons, à être athée qu'à être croyant, quoi. Bien sûr, la croyance est une simplification qui permet à des gens de maintenir, disons, un niveau acceptable par rapport à différents événements un petit peu compliqués qui arrivent quelquefois dans la vie humaine. Ok, et ça, c'est tout à fait compréhensible. Après, le fait de rechercher, quand il s'agit d'un miracle spécifique, c'est-à-dire défini un phénomène physique vraiment qui est hors de l'ordinaire, à ce moment-là, il faut s'y intéresser de manière scientifique. C'est tout à fait normal de mener une enquête. Quand il y a les miracles qui sont revendiqués à Lourdes, eh bien, il y a des enquêtes qui sont menées. Alors après, est-ce qu'elles sont menées correctement ou non? Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est normal qu'il y ait des enquêtes qui soient menées, et c'est l'Église qui mène l'enquête. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Regardez, il y a un objet. C'est un peu bizarre d'appeler comme ça, mais dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est le Saint-Suaire de Turin. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, oui.
Ça vous dit quelque chose ?
Oui, oui, je
Donc
connais.
C'est un linge conservé à Turin et qui conserve la double image, donc la face ventrale et la face dorsale d'un homme qui est censé être Jésus-Christ et donc qui, disons, lors de sa résurrection ou sa pseudo-résurrection, aurait laissé son image sur le linge. Eh bien, il y a plusieurs millions de pèlerins. Chaque fois qu'il y a une ostension à Turin, c'est de l'ordre de 4 à 5 millions de pèlerins qui vont aller voir cet objet. Or, très peu de gens savent que cet objet, il a été démystifié dès l'origine, au XIVe siècle, par l'Église elle-même. C'est ça qui est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une enquête qui a été menée par un évêque, reprise encore par un deuxième évêque 30 ans plus tard, et cette enquête a conclu, ils ont même retrouvé l'artiste qui l'a fabriqué. Mais ça, c'est une information qui reste dans un coin. Donc on a un objet qui a été démystifié par l'Église elle-même au XIVe siècle, d'accord ? Grosso modo, il a été créé aux alentours de 1357. Il a été créé en Champagne, c'est un pur produit français, Cocorico, hein, made in France, d'accord ? Donc on a la date, on a la région... On n'a pas le nom de l'artiste, mais l'artiste a témoigné, mais on n'a pas son nom. Donc, on sait comment il était fait et tout. Quelle est la technique? Il n'y a aucun problème pour les refaire. Moi, j'ai refait du suaire, ça marche très bien, c'est facile.
C'est une petite idée d'activité pour nos week-ends
à faire.
Sans problème, vous pouvez faire. Beaucoup d'étudiants de zététique en ont refait. Je leur ai montré en cours comment on pouvait faire. Il y en a qui ont choisi ça comme rapport. Et qui, du coup, ont travaillé sur la partie historique, tout ça, et évidemment, en ont aussi refait pour montrer que ça peut se faire sans problème. Mais là, le point fort, c'est que ça a été démystifié par l'Église elle-même, dès l'origine. Et ça, c'est totalement oublié, on n'en parle plus, quoi. C'est mis dans un coin maintenant. Alors, c'est sûr qu'après 5 millions de pèlerins hein, pour la région turinoise, ça représente quand même pas mal d'entrées... C'est un budget conséquent, disons. D'accord.
Après, c'est sûr que souvent, on a l'impression qu'il y a un peu une histoire religieuse qui se construit en parallèle d'une histoire scientifique. Et c'est compliqué de discerner le rôle de l'Église dans tout ça. Bah, je pense au procès de Galilée, où l'Église, par exemple, elle a vraiment contré tous les arguments de Galilée par rapport à l'héliocentrisme. Et du coup, est-ce qu'il reste encore des conflits aujourd'hui entre les dogmes et la recherche scientifique, selon vous ?
Bon, je pense pas qu'il y en ait tellement, parce qu'il y a plus la confrontation comme il y avait avant. Je crois que ça, c'est assez fini. L'église ou les églises, hein, quelle que soit la confession ou les confessions qu'il y a derrière, elles ont tendance, j'enlève les extrémistes, hein, parce que là, c'est sûr que ça devient un petit peu compliqué, quoi. Parce que eux, ce qu'ils visent, c'est l'élimination physique des concurrents, entre guillemets, concurrents. Donc là, c'est très particulier.
Oui, c'est plus un enjeu de pouvoir dans ce cas-là.
Bien sûr, exactement. Ouais. Et sinon, il n'y a plus la confrontation comme il y avait avant. Ça s'est vraiment adouci. C'est un petit peu comme si c'était deux domaines séparés. Il n'y a pas de superposition des domaines. Chaque fois qu'il y a eu superposition, la science a montré justement que le miracle ne tenait pas la route et que ça pouvait s'expliquer très facilement. Et donc l'hypothèse miraculeuse devenant superflue, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était l'hypothèse naturelle qu'il fallait nécessairement préférer. Donc ben ça a fait que le domaine, disons, religieux s'est un petit peu réduit comme une peau de chagrin sur la partie, disons, événements concrets, physiquement mesurables. Donc du coup, il y a plus les affrontements à l'heure actuelle qu'il y avait avant, quoi.
Eh ben, on vous remercie beaucoup. Merci. De nous avoir présenté la zététique et je suis certaine que ça va nous permettre d'analyser les choses qu'en fait qu'on perçoit différemment. Donc merci beaucoup et bonne journée. Merci.
Voilà, et je vous invite à vous lancer dans la lecture. Justement, il y a un éditeur qui s'appelle Bookie Book qui est un éditeur de la zététique et vous aurez plein d'ouvrages. Aussi bien papier que numérique, hein, comme son nom l'indique, Bookie Book, qui fait à la fois des livres papier et des livres numériques, et ils portent tous sur la zététique et sur différents domaines qui ont été analysés. Donc je vous invite à la lecture de ces ouvrages.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir, bonne journée.